Les grands titres de ce dimanche 27 novembre. Les leaders internationaux réagissent à la mort de l'ex-dirigeant cubain Fidel Castro. Le gouvernement australien ne veut plus faire de compromis sur la backpacker tax. Et en France, le deuxième tour de la primaire de la droite se joue aujourd'hui dimanche entre François Fillon et Alain Juppé. Partout dans le monde, les leaders de différents pays ont réagi à la mort de l'ex-dirigeant cubain Fidel Castro, qui avait 90 ans. Le président américain Barack Obama a tendu la main aux Cubains, alors que le président élu Donald Trump a dit que Castro était un dictateur brutal qui a opprimé son peuple durant des décennies. Il a toutefois ajouté que son administration aidera les Cubains à prendre la route de la prospérité et de la liberté. Le président chinois Xi Jinping a dit que son peuple avait perdu un véritable camarade et le leader russe Vladimir Poutine a décrit Castro comme le symbole d'une époque. Comme Barack Obama, le président français François Hollande a tendu la main aux Cubains.
Je me suis rendu, c'était en 2015, à Cuba. J'ai rencontré non seulement le président Raúl Castro, mais j'avais également eu un entretien avec Fidel Castro. Et au-delà de l'histoire, c'est l'avenir qui compte. Et je veux, à l'occasion de la disparition de Fidel Castro, encore insister pour que l'embargo qui pénalise Cuba puisse être levé, définitivement levé, et que Cuba puisse être pleinement dans la communauté internationale regardée comme un partenaire. La France regarde toujours Cuba comme un partenaire.
Du côté du Canada, le premier ministre Justin Trudeau, dont le père et ex-premier ministre Pierre-Éliott Trudeau était un ami de Castro, a offert ses condoléances.
On behalf of Sophie, our children and myself, as well as all Canadians, I want to offer our deepest condolences on the death of Fidel Castro to the Castro family and to the people of Cuba.
Un deuil national de 9 jours a débuté à Cuba. Le corps de Fidel Castro sera incinéré et ses cendres dispersées dans le pays. Dans les rues de la Havane, certains résidents, comme Laetitia Fonseca, sont tristes.
Es algo muy triste y muy doloroso porque verdaderamente fue.
It's very sad, painful, because he really was a person who always helped us a lot. The Cuban people, specifically those who struggled the most, and it's something that truly left us all traumatized. We're sad, and he's a person we will never forget.
Mais à Miami, aux États-Unis, où des Cubains vivent en exil, c'était plutôt des célébrations qu'on pouvait voir. Pedro Guerra s'est dit heureux que l'époque de Fidel Castro soit terminée.
I'm not here to celebrate a man's death, but I'm here to celebrate the beginning of the crumbling down of a tyranny that has oppressed my people. You know, I can't tell you how many people I know that are adults now, that are grown now, that I was raised with, that starved in Cuba, that suffered in Cuba, that saw people get killed in the military just for running away because the conditions were terrible and it was horrible.
Qui était Fidel Castro? Quel est son héritage? Toufik Bena Echouche fait le portrait du révolutionnaire cubain sur RFI.
Arrivé au pouvoir en 1959, Fidel Castro ne le quittera réellement qu'en 2006 en raison de problèmes de santé et officiellement qu'en 2008. Il avait annoncé la couleur d'entrée de jeu. L'île vivra sous un régime marxiste-léniniste. Il se fait appeler d'ailleurs le leader maximo, le chef suprême, et c'est en chef incontesté qu'il régnera. Dirigeant d'un pays aux ressources très limitées, il tient pourtant la dragée haute aux États-Unis notamment et devient un allié incontournable de l'Union soviétique de l'époque, mais aussi des pays non alliés ou en voie de développement. Il a promis à son peuple une justice sociale et une société équitable. Il fait des prouesses, certes, dans les domaines de la santé et de l'éducation, mais à quel prix? Plus d'1,5 million de Cubains fuiront son régime et s'exileront notamment aux États-Unis. Selon la Commission cubaine des droits humains et de la réconciliation nationale, plus de 8600 militants et opposants au régime ont été placés en détention pour des motifs politiques pour la seule année 2015. Aucune opposition politique en fait n'est tolérée dans le pays et seul le Parti communiste cubain a droit de cité à Cuba.
C'était Toufik Bena Echouche. En Australie maintenant. Le ministre des Finances, Matthias Cormann, a dit que le gouvernement avait fait tous les compromis possibles sur la backpacker tax. Le dernier plan du gouvernement est de taxer les jeunes qui sont en Australie avec le visa vacances-travail à un taux de 19%. Le Sénat voudrait plutôt 10,5%. L'opposition serait d'accord avec un chiffre entre les deux. Mais le sénateur Cormann a dit à ABC que le gouvernement avait déjà fait beaucoup de compromis.
We believe that we've compromised as far as we can sensibly compromise, given that the budget bottom line cannot afford a further tax cut beyond what it is that we've put on the table. I mean, you've got to remember, we're all focused on preserving our AAA credit rating. We're all focused on getting the budget back into surplus, as soon as possible. If we were to provide a bigger tax cut to foreign workers, then we would have to recoup that either by higher taxes on Australians or by deeper cuts on the spending side in Australia. And we don't believe that that is appropriate.
Le ministre des Finances, Matthias Cormann. L'ex-premier ministre Tony Abbott croit que le gouvernement doit prendre des mesures rapides pour résoudre la crise budgétaire. Il a dit à Sky News que le gouvernement devrait s'inspirer de son controversé budget de 2014.
If we don't get the budget better, we are ripping off our children and our grandchildren. It's a form of intergenerational theft, spending their money on us because government does not spend a dollar that it doesn't take from you, the taxpayer, either in today's taxes or, importantly, tomorrow's taxes when the debt has to be repaid. So, look, it does have to be done. I'm not saying that it's going to be easy, but this is where the government must be prepared to have that tough conversation with the Australian people.
L'ex-premier ministre Tony Abbott. Les Verts vont demander une commission d'enquête sénatoriale sur le procureur général George Brandis et une entente avec le gouvernement d'Australie-Occidentale. Le sénateur Brandis aurait conclu une entente avec l'Australie-Occidentale permettant à l'État de récupérer $1 milliard du Bell Group qui avait fait faillite plutôt que ce soit le Commonwealth qui récupère l'argent. Le sénateur des Verts, Nick McKim, a dit à ABC qu'une commission d'enquête sénatoriale permettrait de faire la lumière sur l'affaire.
We think that to initiate a Senate inquiry would allow us to get to the bottom of what appears to be a very murky affair.
Le sénateur des Verts, Nick McKim. La députée travailliste Anne Ali veut voir plus de diversité au Parlement. Elle dit que la diversité raciale et ethnique est importante et qu'il faut aussi augmenter le nombre de personnes avec des handicaps. Elle a dit à ABC que le Parlement devrait être plus représentatif de la société australienne.
So diversity in backgrounds and what people bring to Parliament, we don't have that full representation yet, and I think that's something that we should be striving towards.
La députée travailliste Anne Ali. Il y a eu beaucoup de vols retardés à l'aéroport de Melbourne ces derniers jours en raison de problèmes d'approvisionnement en carburant, mais il semble que la situation tire à sa fin. ExxonMobil, qui s'occupe de l'approvisionnement en carburant, a dit que tout était de retour à la normale. L'aéroport conseille tout de même aux passagers de contacter leur compagnie d'aviation pour vérifier s'il y a eu des changements à leur vol. On retourne à l'international maintenant. En France, le deuxième tour de la primaire de la droite, c'est aujourd'hui dimanche. Ça se joue entre François Fillon et Alain Juppé. On devrait savoir demain matin, ici en Australie, qui représentera la droite à l'élection présidentielle de 2017. Les précisions de Guillaume Naudin.
Il ne peut en rester qu'un après des mois de campagne et un entre-deux-tours parfois virulent entre Alain Juppé et François Fillon. Ce sont les électeurs de leur camp qui vont avoir le dernier mot ce dimanche. Comme la semaine précédente, ils ont jusqu'à 19h, heure de Paris, pour se rendre dans l'un des plus de 10 000 bureaux de vote, signer la charte d'adhésion aux valeurs de la droite et du centre, payer à nouveau 2 € et enfin glisser leur bulletin dans l'urne. La semaine dernière, avec plus de 4 millions de votants, la participation avait été massive. C'est l'inconnu encore cette semaine. Après l'élimination de Nicolas Sarkozy, les électeurs de gauche qui représentaient 15% du corps électoral, se déplaceront-ils à nouveau? Très en retard après le premier tour, Alain Juppé leur a adressé des signaux ces derniers jours en dénonçant la brutalité sociale du programme de François Fillon, ainsi que son conservatisme sur le plan sociétal, notamment sur la question de l'avortement. Il espère ainsi attirer vers lui une partie du vote féminin qui s'était majoritairement portée sur son adversaire la semaine dernière et rattraper un retard qui semble quand même très important.
Guillaume Naudin pour RFI. En Corée du Sud, des centaines de milliers de personnes manifestent toujours dans les rues de Séoul. Ils demandent le départ de la présidente Park Geun-hye, qui pourrait faire face à un impeachment dès la semaine prochaine. Des procureurs accusent la présidente d'avoir assisté les activités criminelles d'une amie en la laissant influencer des décisions politiques et extorquer des compagnies. Ça fait 5 semaines que les Sud-Coréens manifestent. Reportage de Frédéric Ojardias sur place à Séoul.
La nuit est tombée sur la place de Gangwamun, transformée en un océan de bougies lumineuses. Les concerts succèdent aux discours, l'ambiance est festive et tous les âges manifestent côte à côte.
J'étudie dans une université de province, mais je suis venue à Séoul pour défendre notre pays en brandissant cette bougie. Je pense que nos politiciens hypocrites doivent réaliser que notre pays ne leur appartient pas et qu'ils doivent avoir peur du peuple.
J'ai voté pour Park Geun-hye, mais au bout de 3 ans, je me rends compte qu'elle n'est pas faite pour la politique et je manifeste pour sa démission. Elle a menti au public.
Beaucoup de familles sont venues au complet, comme la famille Lee, dont le cadet, 12 ans, brandit une grande épée en carton.
Ça, c'est pour dire à Park Geun-hye de démissionner. Si elle ne démissionne pas, je lui coupe la tête.
Pourquoi je suis venu avec ma fille? C'est un événement historique. Ce n'est pas dans les livres qu'on apprend de telles choses. Et nous ne devons pas laisser ce scandale se reproduire.
Cette nouvelle mobilisation massive devrait accentuer la pression sur le Parlement pour qu'il entame une procédure de destitution.
Frédéric Ojardas pour RFI. Coup d'œil à la météo avant de passer au sport. On vous parlera entre autres de foot. À Perth aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée avec un maximum de 31 degrés. Adélaïde, 27. Melbourne, 19. Hobart, 21. Canberra, 26 degrés. Wollongong, 22. Sydney, 24. Newcastle, 23. Brisbane, 28 degrés. Cairns, 32. Et à Darwin, 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 27 novembre. Les leaders internationaux réagissent à la mort de l'ex-dirigeant cubain Fidel Castro. Le gouvernement australien ne veut plus faire de compromis sur la backpacker tax. Et en France, le deuxième tour de la primaire de la droite se joue aujourd'hui entre François Fillon et Alain Juppé.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.